Chers auditeurs, nous avons déjà dit combien le manque de formation chez les prêtres était préjudiciable à la qualité et peut-être à la fécondité de leur ministère. En 1886, le supérieur du séminaire de Bayonne écrivait à ce sujet. La plupart des jeunes gens étaient réduits à demander un asile dans des presbytères d'où, après des études forcément incomplètes et une formation morale dépourvue d'épreuves suffisantes, ils sortaient pour marcher au sacerdoce. Un très petit nombre, à qui leur fortune personnelle permettait ce luxe, allait chercher dans quelque université une instruction plus développée et plus sérieuse. Mais ce milieu ne valait rien pour l'intégrité de la vocation lévitique. Mêlés aux jeunes gens du monde, à peu près libres d'ordonner leur vie à leur guise, souvent, ils perdaient plus d'un côté qu'ils ne gagnaient de l'autre. Il ne faut pas cependant trop noircir le tableau. Le Pays basque a connu d'authentiques pasteurs d'âme, intellectuellement et moralement à la hauteur de leur mission. On peut penser à un Achular ou à un Johannes Echeverri, que leurs écrits ont fait connaître, mais on pourrait certainement en citer d'autres. Il reste que le besoin urgent d'un séminaire était reconnu par tous. On avait assisté à quelques velléités de construction en 1580 avec Monseigneur de Maury et en 1699 aux États de Navarre qui pensaient en construire un à Saint-Palais, au diocèse de Dax. Des clercs et des laïcs avaient fait des legs à l'Église dans ce but. Mais plus de 150 ans après le décret du Concile de Trente, rien ne se faisait. Le roi Louis XIV lui-même finit par s'impatienter et le 15 décembre 1698, dit un historien, ne se contentant plus d'exhorter, il enjoignit à tous les archevêques et évêques de son royaume d'établir sans tarder des séminaires dans leur diocèse. Ce qui faisait difficulté, ce n'était pas seulement la construction d'un bâtiment d'une grande capacité d'accueil, mais il fallait encore assurer le fonctionnement de la maison et pour cela lui procurer des revenus fixes, car selon le droit en vigueur à l'époque, chaque établissement ecclésiastique, c'est-à-dire les séminaires, les hôpitaux, les paroisses, etc., avaient leur budget propre et ne pouvaient pas compter sur d'autres revenus ou subventions. Sans doute, le Concile de Trente avait-il établi que les divers bénéfices du diocèse devaient apporter leur contribution. Mais ce concours était très aléatoire parce que très peu prisé par les possesseurs de bénéfices. La Providence permit la solution de toutes les difficultés grâce à la générosité d'un bâillonnais fort riche et très charitable appelé M. de Harriag. Il vint donc trouver l'évêque qui était à ce moment-là Mgr Druillet et lui déclara qu'il offrait de se charger de tous les frais d'achat de terrain et de construction d'un bâtiment qui servirait de séminaire. Il s'engageait également à ajouter aux legs déjà existants le complément de dotation qui permettrait le fonctionnement autonome du séminaire. Évêques et clergés ne pouvaient que se réjouir de pouvoir ainsi bénéficier d'un séminaire sans bourse déliée. Libéré des soucis matériels, Mgr Druillet se mit en devoir d'organiser la direction et l'encadrement de cette maison. Il n'avait personne de compétent sous la main pour assurer cette charge tout à fait nouvelle dans un diocèse. En France, des congrégations religieuses s'étaient spécialisées dans ce genre de ministère. Mgr Druillet s'adressa donc à la congrégation des pères de la doctrine chrétienne. Sans préjuger des raisons de son choix, on peut penser que les tendances jansénisantes de beaucoup de pères de cette congrégation l'avait orienté dans cette direction. Il est vrai également que l'un des pères de la congrégation des pères de la doctrine chrétienne dirigeait déjà le collège de Bayonne. Quoi qu'il en soit, la province de Toulouse dépêcha sur place le père César Guillaume pour s'occuper de cette affaire. Il fallait tout d'abord trouver une propriété à vendre. Le lieutenant du maire de Bayonne, M. de Piquevert, possédait à Bayonne, du côté du quartier de Saint-Léon, trois propriétés dont il consentait à se défaire: l'Estanguet, Sainte-Croix et le Pin. Monseigneur Druillet trouva cette dernière propriété, le Pin, à sa convenance. Mais chose assez surprenante, du moins pour nous aujourd'hui, les tractations eurent lieu avec le père César, et c'est à la congrégation de la doctrine chrétienne que M. de Piquevert vendit sa métairie des Pins, et c'est à cette même congrégation que M. de Harriague donna décharge du prix. Le donateur s'engageait également à payer tous les frais de construction et d'ameublement de la maison, et il déclara que tout ce qui existe et sera fait de la sorte demeure acquis irrévocablement et à jamais à la congrégation de la doctrine chrétienne. De son côté, l'évêque se dépossédait en faveur des pères de tous les legs reçus jusque-là pour le futur séminaire. Et un article fut même ajouté qui spécifiait que même si les pères de la doctrine chrétienne étaient écartés de la direction du séminaire, la congrégation demeurait propriétaire des lieux. Le tout, était-il dit, demeurant donné et irrévocablement acquis dès à présent à la congrégation en toute propriété. Quelque temps après, le père César acquit la propriété de l'Estanquet, contiguë à celle du Pin, en échange des trois métairies qui avaient été déjà léguées pour le séminaire. On peut dire que le père César avait bien travaillé pour sa congrégation. Le contrat signé le 5 mai 1721 imposait évidemment des obligations à la congrégation. Les pères s'engageaient à assurer la formation intellectuelle et spirituelle des élèves. À cet effet, disait le contrat, ils leur feront chaque jour une classe de théologie, une conférence sur les cas de conscience et sur l'Écriture sainte. Ils leur apprendront les cérémonies de l'Église et le plein chant. Enfin, ils leur feront pratiquer régulièrement tous les exercices de piété qu'on a accoutumé de pratiquer dans les séminaires. Ce fut le père César qui revint à Bayonne comme supérieur du nouveau séminaire quand les travaux furent terminés. Il amena avec lui plusieurs confrères, tous, comme lui, fervents adeptes de Jansénius et appelant de la bulle Unigenitus, au demeurant des religieux fort zélés et de grande piété. Ils se mirent au travail sous le regard bienveillant de Mgr Druillet. Le séminaire eut-il du succès auprès des futurs prêtres? Quel en était le règlement? Quelles étaient les exigences d'assiduité imposées aux ordinants? Il est impossible de répondre à ces questions. Ce qui est certain, c'est que les pères du séminaire, en particulier leurs supérieurs, eurent une influence indubitable et regrettable sur les fidèles bayonnais. Nous nous étendrons davantage la prochaine fois sur cette question du jansénisme à Bayonne.